D'abord, le splendide guerrier caracolant autour du monstre sur son grand cheval. Noble, on était chevalier. Autrement, on ne pouvait accéder à la noblesse qu'à condition d'être en armure et de se battre bien. De chevalier, l'on devenait noble. Le dragon qui expirait après 1000 contorsions, c'était le mâle. Et la belle princesse attendant, les mains jointes, que son prestigieux défenseur la délivra, quel nom lui donner ? François ne savait pas. Mais la chevalerie, comme pour tous les garçons du Moyen-Âge, était pour lui un idéal auquel on n'osait à peine rêver. Tout homme pouvait devenir chevalier. Même un fils de drapier, François. Cela paraissait impossible, et pourtant, il suffisait d'avoir une armure et surtout une âme sans peur. N'y avait-il pas là de quoi tourner la tête, une tête de 10 ans? À cause de cela, François Bernardone fit des fautes d'orthographe jusqu'à la fin de ses jours, mais ses rêves devaient triompher étrangement. Que le vieux chanoine se redise, cela ne lasse pas du tout ce petit Italien au regard brûlant d'intelligence. L'édifiant radotage continue, nourrissant on ne sait quelle vision fantastique de l'avenir, de la gloire. L'enfant devient tout à coup chevalier. Il se bat contre le diable. Quel coup il lui porte! Le narrateur, qui n'est pas italien pour rien, mime le combat avec de grands gestes exaltants. Et la princesse qui ne bouge pas, mais qui prie, François ne la perd pas de vue dans la chaleur de la bataille. Elle est belle. Qui peut-elle être? Il faut la mériter. Dans l'âme encore innocente de celui qui écoute comme si sa vie en dépendait, quel étrange tumulte! Le cœur bat très fort, et sorti de classe, l'élève nul en grammaire mais ivre d'une joie inconnue se met à chanter. Il chante toujours quand il est heureux. À la maison. Mise de côté les exagérations de Celano dans les premières lignes de sa Vita Prima, il faut voir ce qu'il s'y glisse de vrai. Il semble hors de doute que François connut chez ses parents la vie facile des riches de ce temps. Son père augmentait sa fortune avec régularité, en acquérant des terrains vendus par des seigneurs en mal d'argent, et bien qu'il ne fût pas seigneur lui-même, loin de là, sa demeure était, si l'on peut dire, au-dessus de sa condition. Luxueuse, tendue d'étoffes aux couleurs délicates, suivant le goût de l'époque. C'est ce que doit entendre notre frère Thomas quand il écrit « Secundum saeculi vanitatem », sans oublier la chair raffinée et la domesticité nombreuse, comme il se devait chez un des plus importants notables de la ville. Quelle figure faisait François dans ce milieu de parvenus? Les témoignages sont d'accord pour nous le faire voir comme le garçon le plus aimable du monde. Aimable était l'épithète qui revenait sans cesse. On remarquait aussi sa gaieté perpétuelle, son rire, tout ce qui dans sa personne séduisait à première vue. Avec le temps, il devait prendre conscience de ce mystérieux pouvoir dont il eût été si tentant d'abuser. Mais rien dans son enfance n'annonçait le personnage promis au plaisir, tel que Celano nous le présente. Quelque chose en lui résistait. On pouvait en faire un démon, on n'en fit qu'un enfant gâté dont le naturel demeurait bon et surtout généreux. Tout jeune, il donnait aux pauvres. Il admirait tout ce qui lui paraissait beau. Les objets précieux que son père rapportait des pays du Nord, des émaux, des miniatures, des tapisseries. De tous les mets qu'on lui servait, il arrivait qu'il en refusât et des meilleurs parce qu'ils n'étaient pas à son goût. On lui passait ses caprices à cause de sa façon courtoise de dire non qui révélait une ascendance de bonne race, celle de sa mère. Le père, agacé peut-être, n'en était pas moins secrètement flatté dans son amour-propre. Tout ce qui sentait la noblesse lui en imposait. De toute manière, qu'y avait-il à reprendre chez François? Obéissant et respectueux, il ne donnait de soucis à personne, sauf en ce qui touchait sa santé qui demandait des soins. Sans être fragile,